Bonsoir à toutes et à tous. Dernière émission de la semaine, Par les temps qui courent, rencontre des artistes tous les soirs pendant une heure. Ce soir, on est ravis de recevoir Barlaine Piamoutou.
Un tango, une danse, un baiser.
Ça y est, je suis 21.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Des lettres et des corps. C'est une lettre qui apprend à Walt Whitman et le reste de sa famille que son frère George a été blessé au front. Une lettre qui raconte comment Walt traverse les villes et les hôpitaux à la recherche de George. Une lettre encore qui raconte à la mère comment ils se retrouvent finalement. Et des lettres enfin écrites pour les soldats, sous la dictée, des soldats tous les mêmes, tous jeunes hommes sacrifiés à la violence de la guerre de sécession. Des lettres et des corps, celui du poète d'abord, et celui de ces soldats amputés qui racontent dans la nuit les batailles et la peur de ne pas revoir les leurs. Le titre de votre dernier livre, Barlaine Piamoutou, appelle le poète par son nom de famille, mais c'est tout sauf une manière de s'en tenir éloigné. Whitman, donc, est publié aux éditions de L'Olivier. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir et merci de votre invitation.
On est ravis de vous recevoir et si vous voulez bien, on va ouvrir avec nos auditeurs, nos auditrices, vous et moi-même, le feuille d'herbe de Whitman par le petit mot de bienvenue dans la voix de Romain de Bec-de-Lièvre.
À vous, qui que vous soyez, en baignant de mon souffle cette feuille-ci pour qu'elle lève, en la pressant un moment de mes mains vivantes. Tenez, sentez à mes poignets comme bat mon pouls, comme le sang de mon cœur se gonfle et se contracte. Je vous lègue, en tout et pour tout, moi-même, avec promesse de ne vous abandonner jamais. En foi de quoi, je signe mon nom.
Walt Whitman. Ce mot d'invitation, il vous dit quoi, à vous, Barlaine Piamoutou?
Écoutez, j'ai lu Walt Whitman à la fin des années 70. J'étais tout jeune, j'ai rien compris à ce texte. Et puis j'étais invité aux États-Unis, j'ai oublié Whitman pendant tout ce temps, j'étais invité aux États-Unis pendant 6 mois, d'août 2012 à février 2013. Et le premier livre que j'achète dans une librairie à Iowa City, c'est Leaves of Grass, la première édition de Walt Whitman. Et c'est là que je comprends vraiment Walt Whitman, c'est-à-dire quand il parle des paysages, quand la Song of Myself, la chanson de moi-même, et je comprends beaucoup de choses. Quand j'écris ce livre, j'ai l'impression de ne pas parler du poète, mais de parler de l'homme. Donc il me touche par son humanité, et ce que je viens d'entendre, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est une manière aussi de dire c'est moi-même au sens le plus humain du terme possible. C'est de l'humain que je vous donne. Regardez, il y a du sang dans mes veines. J'ai des poignets comme vous.
Oui, il ajoute souvent comme vous.
C'est quelque chose qui peut-être cette invitation-là se ressent dans votre texte, Barlaine Piamoutou, notamment. Je trouve par ce titre-là, Whitman, qui est une manière presque de, pas du tout vulgaire ni familière, mais de taper dans le dos de quelqu'un. Parfois, quand on appelle les gens par leur nom de famille, c'est une sorte de familiarité, mais de camaraderie. Est-ce que c'est un peu de cet ordre-là?
Vous avez remarqué certainement que dans le livre, je ne l'appelle pas Whitman, je l'appelle Walt tout le temps. Mmh. Et l'impression que c'est un frère. C'est quelqu'un de la famille, sa mère qui s'appelle Luisa, c'est un peu comme ma mère. Donc, c'est vraiment un pote. Vous avez raison de dire que je tape sur son épaule ou je marche à côté de lui. Vraiment, ça m'a étonné. C'est le cinquième livre que j'écris et j'ai ressenti peut-être pour la première fois, je n'en sais rien, que j'étais à côté d'un pote, quoi. Le personnage, il est complètement vivant, magnifiquement vivant.
Vous dites ça comme s'il était vivant en dehors même de votre écriture, Barlaine Piamoutou, comme si c'était presque pas uniquement vos mots qui l'avaient rendu vivant.
Oui, je m'efface complètement. Par exemple, il y a une date très importante pour moi. Au mois de mai, le 31 mai, on fête le bicentenaire de la naissance de Walt Whitman. Pour moi, c'est beaucoup plus important, à la limite, que ce livre. J'ai envie de fêter ça.
Et c'est un pote que vous avez rencontré en écrivant le livre, en découvrant son œuvre, en vous plongeant dans tout ça.
Oui, il y a quelques années. Et puis, je me suis dit, quand j'ai ouvert le livre, quand je l'ai lu en anglais, je me suis dit, un jour, je vais écrire sur Walt Whitman. Et je venais de terminer, ou presque, mon dernier roman, L'île aux poissons venimeux. Et j'ai commencé à m'intéresser à Walt Whitman. Et cette histoire, que son frère a été blessé à la guerre et qu'il parte tout de suite de Brooklyn pour aller chercher son frère, ça m'a beaucoup touché. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est quelqu'un de la famille.
Et ça commence d'ailleurs par des scènes de famille, puisque il apprend par une lettre que ce frère George a été blessé, et c'est une lettre qui est au milieu comme ça d'une famille qui s'inquiète pour l'un des siens, qui est au front pendant la guerre de sécession, Barlaine Piamoutou. Peut-être dire encore avec vous quelques mots de feuilles d'herbe que vous avez apportées et que vous avez posées sur la table, et éventuellement en lire quelques passages.
Peut-être commencer par le début de la chanson de moi-même. Alors quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, mais quelle égocentrique chanson de moi-même, et c'est absolument pas ça. Et c'est pour ça que c'est un très très grand écrivain. Il y a d'autres poèmes de Whitman qui sont magnifiques. Abraham Lincoln était très important pour lui, et il y a ce poème Captain au Captain qui est magnifique aussi. Je vais lire chanson de moi-même, quelques vers. Je me célèbre moi-même, me chante moi-même. Toi, tu assumeras tout ce que j'assumerai, car les atomes qui sont le mien ne t'appartiennent pas moins. Je flâne, j'invite mon âme à la flânerie, flânant, m'incline sur une tige d'herbe d'été que j'observe à loisir. Ma langue, l'ensemble des atomes de mon sang, façonnés par le sol d'ici même, l'air d'ici même, ma naissance, ici même, de parents eux-mêmes nés ici comme les parents de leurs parents avant eux, 37 ans ce jour, santé parfaite, je commence, comptant bien ne plus m'interrompre avant la mort. Congédier les credos, congédier les écoles, ayant pris mesure exacte de, sans mépris, mais avec du recul, j'accueille, est-ce un bien, est-ce un mal? Je laisse s'exprimer sans frein la nature hasardeuse dans sa vierge énergie.
Quand on rencontre un copain, puisque vous disiez cela, il y a quelque chose qu'on reconnaît dans l'autre. On est aussi touché parce que quelque chose de familier parle à ce que nous sommes. Qu'est-ce que vous avez reconnu de vous-même dans ce qu'exprime Walt Whitman dans sa poésie, Barlaine Piamoutou?
Chez l'homme, il ne se soucie pas de son apparence, par exemple. Ça me plaît beaucoup. Ses cheveux sont en désordre, sa barbe mal taillée. Il flâne tout le temps. Il parle des flâneries constamment dans son livre. Et puis, ce qui m'a touché surtout, c'est sa bonté. Dans le livre, je raconte une petite histoire où il va voir ses amis cochers. Ce que j'aime beaucoup aussi chez lui, c'est l'amour qu'il a pour les gens de peu. les déclasser. Donc il va voir ses amis cochers régulièrement. Et quand il apprend qu'un des cochers, Jack, est malade, n'est pas venu travailler, il va le voir tout de suite. Et Jack lui dit, si je ne vais pas au travail demain, je suis renvoyé. Et Walt lui dit, mais ne t'en fais pas, je vais te remplacer pendant une semaine. Comme ça, tu ne perdras pas ton travail. Et il flâne à Broadway pendant une semaine en tant que cocher. Donc voilà, c'est son humanité qui m'a le plus touché. Et en même temps, c'est un très, très, très grand poète. Quand vous entrez dans une librairie aux États-Unis, une des photos des écrivains que vous voyez le plus, c'est Walt Whitman. Et j'étais à Pittsburgh, chez un couple qui avait la première édition 1855 de Feder. Et je lui dis à un moment, Walt Whitman est bien le père, et je me suis dit, je vais pas dire que père, ça va faire un peu macho. Et le père et la mère de la littérature américaine me dit oui. Et j'apprends par la suite que d'autres écrivains, grands écrivains, le considèrent comme le père et la mère de la littérature américaine. Voilà quelqu'un de très très simple, qui ne se soucie pas de ses apparences, qui prône la démocratie, qui a une vision du monde extraordinaire au XIXe siècle, par exemple, envers les femmes, les hommes, tout est égal, et qui a une bonté incroyable vis-à-vis des personnes les plus défavorisées. C'est ça qui me touche. Et en plus, c'est un très très grand écrivain. Enfin, je vais dire, jamais il ne se flatte d'être un grand écrivain. Il est modeste jusqu'à sa mort. Et pourtant, il vit dans des conditions pénibles. Il est paralysé, etc. Il va soigner les malades, quitte à se faire mal, parce qu'il va dépérir petit à petit. Donc, j'ai rarement rencontré des êtres pareils. Et tout ce que j'ai écrit sur Whitman, dans tous les livres, il parle de cet épisode en une page. Et j'ai pas vraiment inventé, mais j'ai inventé quand même les rencontres, par exemple. J'ai l'impression que j'ai dit vraiment la vérité. C'est drôle, et en même temps, c'est pas tout à fait ça. Je ne savais pas comment il était habillé, qui il a rencontré dans le train, sur le bateau. Je ne savais rien. Je savais des petites choses. Et quand j'ai fini le livre, je me suis dit, mais ça s'est réellement passé il n'y a pas très longtemps.
En tout cas, ça s'est évidemment passé dans votre livre et donc ça s'est réellement passé. On va écouter Octavio Paz parler à son tour de Walt Whitman dans une archive de 1991.
D'abord, la prose. Il a écrit une sorte de vers longs qui vient de la prose de la Bible, qui vient des hymnes protestants, et qui finalement, il vient quelquefois dans les moments pires, parce que c'est un poète très inégal, du journalisme, et des harangues politiques, des meetings, etc., ou des sermons protestants. Mais avec lui, la prose, la parole de la rue, arrive à la poésie. Chez Whitman, la parole est fondamentale. Et la parole dans la ville moderne. Le sujet de Whitman, c'est Whitman, l'individualisme, l'égotisme moderne, mais un ego tellement grand, c'est un cosmos. C'est, en même temps, le grand paradoxe, c'est un quartier de New York, c'est Manhattan, c'est Brooklyn, mais c'est le cosmos. C'est le monde moderne. Et le dialogue, surtout avec le peuple, avec son peuple, avec les hommes, avec les autres civilisations. Il fait un voyage, un rêve, passage to India. Il a des poèmes à la France. Enfin, c'est le monde et l'histoire.
Son chapeau à la main et épaulant avec vigueur son baluchon, Il rase les devantures des magasins pour s'abriter autant que possible du vent qui a forci et s'est refroidi. Voilà pourquoi il n'y a pas grand monde dans les rues de ce quartier où vivent surtout des vieux. Sous un appentis de bois, un couple semble attendre que le ciel se dégage pour continuer la promenade. Et il regarde de l'autre côté de la rue une jeune femme qui s'est arrêtée devant la vitrine d'une imprimerie et a allongé le cou pour s'arranger avant d'y pénétrer. Et aussitôt en sort avec un commis portant un tablier taché d'encre qui penche la tête en arrière en tirant sur sa moustache. Un peu comme Georges quand il réfléchit. Et c'est tout. Avant toute chose, se dit-il en reprenant le fil de ses idées, ce que son père lui a appris, c'est de dire avec tes propres mots ce que tu penses au fond, même quand personne ne t'écoute vraiment. Et c'est tant mieux si tu finis par te contredire, le monde te semblera alors plus vaste et plus varié que tu ne l'imaginais. Il a lui aussi transmis quelque chose comme l'amour des gens du peuple et la foi en la démocratie. Et c'est bien pourquoi il a fait paraître la toute première édition des Feuilles d'herbe le jour de l'indépendance de son pays. Ce qui a beaucoup plu à son père et peut-être même atténué ses souffrances. En tout cas, sa joie faisait plaisir à voir quand il lui a offert son livre. Il l'a humé comme l'air frais du matin et caressé du bout de ses doigts amaigris par la maladie avant de l'ouvrir et de le parcourir, les yeux voilés de larmes. « Mon cœur se remet enfin à battre », lui a-t-il confié d'une voix étouffée. « Et maintenant je peux partir en paix, sans le moindre regret. » Pauvre petit papa, il a toujours été lyrique dès qu'il parlait de bœufs ou de ses enfants. Il est mort pile une semaine après.
Barlaine Piamoutou, on entend un extrait de votre texte « Whitman » lu par Romain de Bec-de-Lièvre. Alors ça y est, Walt est parti de chez lui à la recherche de Georges, dont il a appris qu'il était blessé au front de la guerre de sécession. Et puis il va le traverser comme ça, les rues, avant de traverser les salles des hôpitaux et avant d'arriver sur le front de la guerre. Et dans cette sorte de flânerie, puisque c'est le mot que vous utilisiez tout à l'heure, il va faire entrer des sensations d'enfance, des souvenirs, de jeux avec son frère, des odeurs aussi, des confusions d'époque, et puis la voix des autres. Et ça me semble intéressant qu'on s'attarde un peu sur ce point-là, parce que Octavio Paz disait finalement, Whitman, ce qu'il réussit comme tour de force, c'est faire entrer la parole de la rue dans le poème. Et vous, vous faites entrer non seulement la parole de la rue, mais aussi les paroles intimes, les conseils du père, directement dans le texte, dans la narration. Là, vous rapatriez les conseils du père, comme ça, sous cette forme-là. Il faut que tu dises ce que tu penses au fond, même quand personne ne t'écoute, c'est tant mieux, même si tu finis par te contredire, comme si d'un seul coup, le père, il pouvait parler vraiment au présent.
Quand Romain a lu le texte, ça m'a fait mal au cœur parce que j'avais de la peine pour Walt de se rappeler que son père est mort, etc. Alors, quand j'écris un livre, c'est le personnage qui est le patron, qui guide. Moi, je ne suis que l'auteur, donc tout part de la perspective de Walt Whitman, c'est-à-dire c'est lui qui fait entrer ces personnages-là. C'est vrai, il y a une flânerie ou un long voyage.
Ou un travelling même parfois, oui. On a vraiment l'impression de ça. Oui,
de Brooklyn à Washington, puis à Falmouth. Et il rencontre des gens, comme c'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion, il s'arrêterait n'importe où pour parler à un moment donné. Il dit qu'il, dès qu'il voit quelqu'un qui souffre, il s'arrêtera pour lui parler, pour lui donner un peu d'amitié et d'amour. Donc forcément, il va croiser ces différents personnages. Et c'est souvent des personnages, parce que nous sommes en guerre, donc des personnages qui n'ont pas grand-chose.
Il se remémore aussi la manière lyrique dont son père a accueilli la publication de Feuilles d'herbe, mais aussi les conseils simples et primordiaux que celui-ci lui a donnés pour écrire. Puisque vous disiez tout à l'heure, Louisa, sa mère, c'est aussi ma mère. Est-ce que ce père-là, c'est aussi le vôtre, Barlaine Piamoutou?
Oui, surtout la mère, Louisa, mais le père aussi, qui a le même prénom que Walter. Et mon père, par exemple, quand j'ai écrit Saloguise sur ma mère, je suis allé en France pour faire la promotion du livre et je suis rentré à Maurice. Et il m'a donné de l'argent. J'ai dit, mais pourquoi tu me donnes de l'argent? J'ai des droits d'auteur de toute façon. Non, il m'a insisté pour me donner de l'argent. Il a dit, parce que tu as écrit un livre sur maman. Voilà, donc peut-être il y a ce rapport-là, je ne sais pas.
Ouais, c'est intéressant. C'était oui. Une manière de dire, c'est du travail, ou c'était une manière de dire, c'est même au-delà du travail?
Oui, au-delà, je le pense. C'est un grand remerciement que jamais il m'a donné de l'argent pour un autre livre, par exemple. Mais ce livre-là, comme si j'avais fait un effort surhumain, enfin je n'en sais rien, mais il m'a donné de l'argent parce que tu as écrit un livre sur maman. Donc je suppose qu'on peut faire le lien avec le père de Walt Whitman. Ce qui est intéressant, le père était charpentier et Walt Whitman aussi a été charpentier pendant un certain temps, à construire des maisons. Il y a même les paroles dans le livre de son père qui disait « Ah, combien c'est impressionnant de dormir dans une maison qu'on a construite. »
Faite par soi-même, ouais, voilà. Sur un sol, ouais. Travaillé par soi-même.
Tout à fait, oui. Oui, le père est là. Pourquoi le père est là? Pourquoi je l'ai mis là? Je ne sais pas ce à quoi Whitman a pensé en apprenant que son frère a été blessé, ce à quoi il pense réellement quand il marche. Mais parce que le cocher lui dit... tu marches vite comme si, parce que d'habitude c'est quelqu'un qui flâne, comme si tu avais le diable à tes trousses. Et lui, il pense à la dernière fois qu'il avait le diable à ses trousses, c'est quand il apprend la mort de son père, je suppose. De toute façon, il y a la blessure de son frère, il ne sait pas s'il est gravement blessé, ou peut-être qu'il est mort, tout simplement. Et ça vous rappelle automatiquement d'autres blessures et d'autres morts. C'est pour ça que son père débarque. Et quand il flâne, entre guillemets, dans les rues de Brooklyn avant de prendre le bateau, il regarde les maisons et il fait sa géographie à lui parce qu'il voit des rues, là il avait construit une maison, ou son père, etc. Donc oui, il y a un lien.
Jusqu'à ce qu'il nomme lui-même une forme de confusion des époques, lorsque des sensations, y compris sensations physiques, lorsque ses propres sens de personne devenue homme le ramènent à ses sens d'enfant, lorsqu'il voyait le monde avec le corps d'un gamin de 8 ans et le nez et les yeux d'un gamin de 8 ans, il est tout à fait à même de retrouver ces choses sensorielles d'une manière très précise sous votre plume.
Tout à fait, c'est-à-dire... Quand il pense à son père, il pense aussi à la promenade que son père a faite avec lui, une semaine avant sa mort, c'était à West Hill, parce que Walt est né dans une ferme, pas à Brooklyn, à West Hill, et il a 4 ans quand il quitte la ferme, et c'est un arrachement vraiment douloureux, quoi. Donc son père l'a emmené avant qu'il ne meure dans ce lieu-là, et il pense à son enfance, comment il jouait avec les vagues, avec les algues, tous les sentiers qui menaient à la ferme, etc. Donc il y a un lien, il se rappelle de son père, il pense à cette promenade, et il se propose, il dit quand George sera guéri, je l'emmènerai là-bas pour qu'il connaisse ce lieu-là. Parce que George est beaucoup plus jeune que Walt, donc il n'a pas connu West Hill.
Et c'est aussi une façon, sur ce chemin long, éprouvant, inquiétant qui va le mener à son frère blessé, de se donner de l'entrain. C'est-à-dire que rapatrier tous ses souvenirs d'enfance, éventuellement imaginer de futures promenades ou ce qu'il va peut-être raconter dans une future lettre à sa mère, c'est aussi une manière d'avancer. Parce que c'est vraiment un livre qui avance vers le frère, mais on met quelques pages, beaucoup de pages même, à le retrouver, ce frère-là. Alors il faut que ce soit une manière pour nous aussi, lectrices et lecteurs, d'avancer avec Walt.
Vous savez, j'étais à Pittsburgh. Il y avait une tempête de neige au mois de décembre. Je devais aller chercher une amie à l'aéroport qui venait de Marseille. Et j'avais un problème avec le téléphone pour avoir un taxi. C'était vraiment compliqué. Et on me dit, il faut prendre un bus au centre-ville. Donc, je dois marcher pour aller prendre le bus. J'ai des chaussures, pas de bottes, rien du tout. Un parapluie rudimentaire. Et je marche, et il y a vraiment une tempête de neige. Et à un moment, il y a le parapluie qui se casse, se brise, et je jette le parapluie, je continue à marcher. Et tout d'un coup, pour reprendre ce que vous disiez sur l'entrain, je me suis souvenu que j'ai vécu 20 ans à Strasbourg. Et que c'était dans, comment, mon ADN que
c'est dans
d'affronter.
Votre corps, vous savez très bien faire ça.
Oui. Et pour Walt Whitman, c'est la même chose. C'est-à-dire la mort, il se rappelle la mort de son père, il va chercher son frère, et il faut qu'il se donne du courage, quoi. Parce qu'il va, voir des choses qu'il n'a jamais vues. Bien sûr, il a vu des blessés parmi les cochers et même les premiers soldats, etc. Mais ce qu'il va voir à Washington et à Falmouth, c'est, ça va être l'horreur, quoi.
Comme ils sont jeunes, ces patients allongés sur le lit ou assis sur une chaise si basse qu'elle pourrait leur servir de prie-dieu. L'un d'eux tousse en rajustant le bandeau qu'il a sur l'œil, puis il remonte la couverture sous son menton et se prépare au sommeil. Un autre, impeccable dans sa tenue réglementaire, s'essuie la bouche de son poing valide après s'être raclé la gorge. On entend aussi des rots et des pets, quelques éternuements et des lits qui craquent, mais personne ne parle ni ne gémit. C'est qu'ils sont généralement taiseux, ceux qui reviennent de la guerre. C'est comme revenir de l'enfer après y avoir enterré ses rêves d'innocence et appris sur soi-même des secrets qu'on ne dévoilera jamais. Et ça donne une bande de gosses désemparés dans un monde devenu trop vieux pour eux. Et bien entendu, aucun moustachu parmi eux pour lui rappeler Georges. Toutes les salles ne se ressemblent pas. Celle des mourants est plus vaste et lumineuse. De plus, elle est ornée de guirlandes, de ballons et de drapeaux de l'Union. Mais des confédérés, faits prisonniers, y meurent aussi. Rien ne les distingue des nordistes. Ils ne sont ni enchaînés, ni mis en quarantaine, sauf qu'eux n'ont pas le droit de porter l'uniforme. Mais par ça, ils ont le même air hébété et ce regard éteint, perdu dans une contemplation aveugle, la même respiration lente et sifflante qui doit faire mal à la gorge, et ce visage blafard avec des lèvres d'un bleu presque noir et des cernes d'un vert tendre. Et ils éprouvent la même honte d'avoir été amputés d'un bras ou d'une jambe, dont il ne reste qu'un moignon qu'ils essaient de cacher sous la couverture, et ça fait un plissé accordéon. Ils se sentent démunis, mis à nu, et plus tout à fait des hommes. Thank you.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Barlène Pierre-Moutou.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Hallelujah, it's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
La voix de Jeff Buckley pour tous les soldats, jeunes hommes, que va trouver Walt Whitman sur son chemin dans l'hôpital. Vous disiez tout à l'heure, Barlaine Piamoutou, qu'il s'y prépare, mais il ne peut pas s'y préparer à l'horreur qu'il va trouver sur le front de la guerre de sécession et à tous ces corps potentiellement amputés, tous ces jeunes hommes, et tous les mêmes. Et je trouve que c'est vraiment une des choses les plus fortes qu'on lit dans votre livre, Whitman, c'est l'idée que la littérature raconte les batailles et que la guerre rassemble les ennemis, quoi. Enfin, c'est-à-dire que dans ces salles d'hôpitaux, en fait, il y a des gosses qui sont les mêmes, quoi, qui se tapent dessus, mais qui sont les mêmes.
Comme dans toute guerre civile. Et Whitman en parle, en tout cas dans le livre que j'ai écrit, c'est-à-dire, il trouve ça tellement anormal que normalement ce sont des vieilles personnes qui meurent d'abord. Là, vous avez tant de jeunes qui meurent, donc l'Amérique est née dans le sang. Le baptême de l'Amérique se fait dans le sang et dans l'horreur, quoi, avec toute cette jeunesse qui va être décimée parce qu'il y a des morts par milliers chaque jour.
Vous vous êtes plongé dans cette histoire-là pour écrire Whitman. Vous êtes aussi plongé dans l'histoire de la guerre de sécession, dans des archives, dans des textes à ce propos.
Je me suis plongé dans à peu près tout ce qui pouvait concerner Walt Whitman, à la fois dans la guerre de sécession que je connaissais mais très très mal, la vie de Whitman, sa poésie. J'ai commencé par tout lire de ce qu'il a écrit. Et la guerre de sécession, j'ai vu des archives, il y a beaucoup d'universités aux États-Unis qui ont travaillé sur la guerre de sécession, ou le lien entre Whitman et la guerre de sécession. Parce que Whitman va le dire après que son œuvre ou son livre « Feuilles d'herbe » et la guerre ne font qu'un, quoi. Et c'est la guerre qui le sauve, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il fait sortir de sa léthargie new-yorkaise. Il n'écrivait plus, etc. Et puis quand il part à Washington, puis à Falmouth, et puis il retourne à Washington. Normalement, il devait rentrer à Brooklyn, mais il va passer plusieurs années à Washington à soigner les malades. C'est là qu'il découvre l'humanité, en quelque sorte.
Et c'est une découverte qui passe par les mots qui lui sont dits, on y reviendra aussi, les mots qui lui sont dictés, parce qu'il va se mettre à écrire des lettres pour ceux qui sont alités et ne peuvent plus écrire à leur famille. Et c'est aussi une humanité qui passe par la découverte des corps. Dans le passage que j'ai lu de votre texte, on sent bien que votre écriture va au plus proche des corps, y compris quand ils sont putréfiés, y compris quand ils puent, y compris quand ils ont mal, y compris jusqu'au détail de leur amputation. C'est vraiment important la manière dont tous les corps traversent votre texte.
Là, c'était un moment très compliqué parce que dans la vie civile, je crois que j'hésiterais à entrer dans un hôpital, par exemple. Et ma petite sœur m'a dit, mais comment tu as fait pour décrire ces corps-là alors que tu ne peux pas les regarder, etc. Donc ça a été un moment très difficile. Mais Whitman les regarde, pour lui, un corps difforme est aussi beau qu'un beau corps. Avant de connaître la guerre, il a écrit des textes magnifiques sur le corps électrique, etc. Et puis il se rend compte, quand il voit le chariot avec ses bras, ses jambes, etc., il dit, je vais plus décrire le corps comme je l'ai décrit dans le passé. Ça va vraiment le changer. Oui, il veut, quand quelqu'un meurt, par exemple un sudiste qui meurt, c'est lui qui va laver le corps de ce mort, qui va le coiffer, qui va lui mettre une casquette, etc. Il est au plus près du corps, quoi. Il touche le corps, il a une relation intime avec le corps de l'autre.
Si bien que ce frère Georges, à la recherche duquel il part au début de votre roman, finalement, c'est aussi une sorte de métaphore de tous les frères qu'il va rencontrer. Ce n'est plus simplement son frère Georges, son frère de sang, mais des frères d'humanité, d'une certaine manière.
Tout à fait. Il l'écrit dans ses poèmes. Il dit, il ne regarde pas les religions, les castes, les hommes, les femmes. Et oui, ce sont ses frères. Et en fait, il est allé, il pensait partir pour un jour et ramener Georges. Il va y rester quelques années. Et puis, il ne s'occupe pas vraiment de Georges, parce que Georges n'est que légèrement blessé. Donc, il va s'occuper des autres malades. Oui, ce sont ses frères. Ils leur écrivent des lettres, non seulement parce qu'ils sont amputés, par exemple, du bras, mais aussi parce que beaucoup ne savaient pas écrire.
Justement, pour revenir à l'importance de ces lettres et aussi aux notes qu'il prend au fur et à mesure que les jours passent et qu'il fréquente tous ces soldats blessés, il en fait comme une sorte de chronique. Est-ce que vous diriez que c'est aussi c'est aussi un déplacement dans sa propre écriture ? C'est quelqu'un qui a été journaliste, qui a été aussi habitué à raconter le réel, à trouver les bons mots. Qu'est-ce qui va se modifier selon vous ou se renforcer au contact de tout ça ?
Alors c'est le seul, si on connaît un peu la guerre des sécessions, bien entendu il y a les lettres que les soldats envoyaient à leur famille, mais en même temps c'est le seul écrivain ou journaliste qui se trouve en pleine guerre, quoi. Il n'y avait pas de reporter à l'époque, etc., etc. Donc il va le dire lui-même, la vue de tant d'horreurs, la vue de ces corps mutilés, va lui inspirer d'autres poèmes. Il va parler de la guerre, beaucoup de la guerre par la suite. Avant, il n'y avait pas la guerre.
Avant, il n'y avait pas la guerre.
Avant, il y avait la nature qui était très généreuse. On peut dire d'une certaine manière que, avant de connaître la guerre, avant de partir à la recherche de son frère Georges, c'était peut-être les champs d'innocence. Et après, ça va être les champs d'expérience. Comme un grand poète anglais l'a écrit.
On va écouter Pierre Michon qui a pris lui aussi un poète pour personnage, si on peut dire les choses. Il était reçu par Alain Weinstein à l'occasion de la publication de Rimbaud le Fils.
Rimbaud embête. Il nous embête maintenant dans cette petite période d'histoire qui est le XXe siècle. Parce que d'abord, il nous force à l'identification. Il n'y a pas moyen de... On imagine qu'on rencontre, par exemple, quand vous me dites « Que ferait Rimbaud dans un studio ?» C'est bien pour me dire, en quelque sorte, qu'est-ce que vous faites dans un studio. Enfin, il y a quelque chose dans Rimbaud qui titille les gens du côté de l'identification. On peut imaginer qu'on rencontre Baudelaire dans le couloir, il vous dit bonjour ou pas. Bon. Mais Rimbaud, c'est soi-même qu'on va rencontrer dehors, c'est soi-même jeune. Bon, parce que maintenant, on n'a plus l'âge de Rimbaud. Quand on avait 20 ans, c'était nous. Maintenant, c'est nous-mêmes jeunes. Donc on ne peut pas, il y a un mirage, une sorte de tournoiement spéculaire dans Rimbaud qu'on ne peut pas aborder avec toute sa raison. En faisant la généalogie de ce bouquin, en fait le grand Rimbaud, ça n'était pas Rimbaud Arthur, c'était Rimbaud Frédéric, son frère aîné. Voyez-vous, j'avais pensé dans un premier temps faire un livre sur le frère aîné d'Arthur Rimbaud, qu'on voit seulement dans un portrait de Première Communion où ils sont tous les deux. Je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu le faire d'abord parce qu'il y avait trop peu de documents sur ce Frédéric et que les Rimbaldiens étant extrêmement pointilleux sur le réel, je ne pouvais pas inventer complètement les faits et les gestes de ce Frédéric. Et ensuite parce que je me suis dit que pour traiter d'un aussi grand sujet, prendre cette posture narrative aurait quelque chose d'un peu crapuleux. Oui, un peu, très crapuleux même.
Le grand Pierre Michon au micro d'Alain Weinstein en 1991 dans l'émission Du jour au lendemain sur France Culture. Peut-être pour évoquer avec vous la particularité non seulement de prendre pour personnage de fiction un personnage qui a existé, mais en plus un personnage de poète. Vous êtes posé aussi la question de la véracité, de l'attachement au réel, de la manière dont, en effet, vous le disiez, des universités américaines publient des tonnes et des tonnes de textes sur Whitman et la guerre de sécession. Est-ce qu'il a été délicat pour vous, Barlaine Piamtou, de trouver votre place de fiction à l'intérieur de tout ça?
Je trouve que Pierre Michon est un peu dur avec lui-même, crapuleux.
Il a voulu éviter d'être crapuleux.
Mais en tout cas, les Whitmaniens, je pense qu'ils sont très très cool. C'est-à-dire, c'est aussi un hommage à Whitman. Et comme on ne sait pas comment il était habillé ce jour-là, ce qu'il pensait, etc. Donc,
vous avez toute la place.
Oui, je trouve ça tout à fait légitime. Non, j'ai aucun problème. Peut-être j'en aurai par la suite, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, je me dis non.
Vous avez eu toute la liberté au moment où vous étiez en train d'écrire, d'imaginer ce que vous vouliez pour la figure de Walt Whitman.
Oui. Parce que c'est bien le travail d'un écrivain que d'aller au-delà de quelques faits, la date de son départ de Brooklyn et la date de son départ de Falmouth, après avoir retrouvé son frère, l'écrivain doit inventer. Moi, je connais pas mal d'écrivains. Qui a écrit des romans policiers, qui parlait de la Chine, du Japon et tant d'autres pays.
Sans avoir mis les pieds là-bas ?
En restant enfermé dans sa chambre au mur blanc. Et je trouve ça fantastique, c'est vraiment la place de l'écrivain.
Est-ce qu'il y a une singularité liée au fait que Whitman soit poète ? Est-ce qu'avoir pour personnage de fiction quelqu'un qui écrit rend votre personnage un peu différent des autres personnages que vous avez pu écrire, Barlaine Piamoutou?
Peut-être. Peut-être mon éditrice Laurence Renouf m'a dit, parce que je suis en train d'écrire un autre livre, et je lui dis, là j'écris sur la création, et elle me dit, mais ce livre est sur la création. Donc, je ne sais pas. Oui, probablement. Probablement. Mais je ne parle un peu de sa poésie, pas tellement, mais...
Non, mais de la création, par contre, oui, je suis assez d'accord avec votre éditrice.
Oui. Peut-être à un moment, j'ai eu envie de parler de sa création, c'est quand il se retrouve seul dans le bois, et il pense à tout ce qui s'est passé, etc., et se pose la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? Il se sent démuni. Et en même temps, donc, vraiment, c'est, comme je vous le disais avant, c'est... ses premiers textes avant cette guerre, ce sont vraiment les chants d'innocence, quoi. Après, c'est autre chose. Donc, sa vie va complètement basculer. C'est pour ça qu'il dit que la guerre et mon livre ne font qu'un.
Est-ce que ça vous arrive aussi, Barlaine Piamoutou, face au réel, face à l'expérience de la vie, face même à des expériences peut-être qui relèvent moins du réel, de vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ?
Ça m'arrive souvent, mais maintenant je sais que je vais écrire deux autres livres dont j'ai les thèmes et le sujet. Par exemple, je suis invité, c'est pas le prochain livre, mais un jour j'aimerais bien écrire sur un poète que j'adore qui s'appelle Fernando Pessoa. Et je suis invité à Lisbonne en décembre et je me dis tiens, c'est l'occasion. Et je sais que Pessoa a écrit une ode à Whitman, que Borges a traduit les feuilles d'herbe, que Van Gogh parle admirablement de Whitman dans une des lettres qu'il a écrites à sa sœur. Je sais pas. Oui, j'aimerais bien écrire sur un artiste, un poète, mais pas forcément parler de son œuvre, mais de sa vie personnelle. Mais forcément, quand on parle d'un poète ou d'un artiste, on évoque la création d'une manière ou d'une autre.
Alors justement, sans indiscrétion, puisque vous êtes en train d'écrire sur ce thème-là, sur la création, vous y allez par quel bout, par quel endroit ?
Par exemple, pour le prochain livre, je me pose la question, comment je passe du réel au fictif ?
Pour vous, dans votre propre pratique d'écrivain ?
Oui. En tant qu'écrivain, pour le prochain livre, je me pose cette question-là, comment je passe du réel au fictif. Et en même temps, je voudrais que dans le livre, démontrer comment, en tant qu'écrivain, moi personnellement, parce que ça ne concerne que moi, je peux passer du réel au fictif. Enfin, j'ai quelques expériences. Par exemple, quand j'ai écrit Bénarès en 1999, j'étais seul dans ma maison à Trou-de-Douce, à l'île Maurice, et je faisais vraiment penser à un écrivain, comme l'a dit Philippe Roth, c'est-à-dire un écrivain, c'est quelqu'un qui reste à la maison. Et tous les hommes partaient au travail, moi j'étais seul à la maison, j'étais entouré d'autres maisons, mais avec des femmes. Et un jour, j'en ai parlé à mes voisins, un couple de voisins et leur fille, et ma voisine m'a dit « Sur quoi tu écris ?» etc. Ce sont des personnes qui ne lisent pas, qui n'ont pas une expérience du livre, etc. C'est vraiment ce que j'appelle, quand je débarque à Trop de Douce il y a 25 ans maintenant, avant j'étais enseignant à Strasbourg, donc intellectuel d'une certaine manière, et quand je débarque à Trop de Douce, j'ai cette phrase dans la tête, pourquoi l'Occident cherche-t-il à comprendre la primitivité? C'est une phrase d'un sociologue, Remo Guideri, et la réponse que Remo donne, c'est ce n'est pas parce que la primitivité est anti-occidentale, c'est parce qu'elle est anti-occidentale. C'est-à-dire que la primitivité est l'enfance de l'Occident. Et quand je débarque à Drodoudou, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire comme si moi j'étais l'Occident, et les personnes que je rencontre, qui ne lisent pas, qui ne parlent pas de concepts, etc., mais qui ont une intelligence sensible extraordinaire. Donc je parle à ma voisine, je lui dis, voilà, j'écris un livre sur Bénarès, à l'île Maurice, mais aussi en Inde. Et en Inde, d'après les hindous et leur religion, si on meurt à Bénarès, on va directement au paradis. Et ma voisine me dit très très naïvement, même si c'est un criminel, mais profondément naïvement. Et ce bout-là, je l'ai dans mon livre, quoi. C'est un des personnages féminins qui dit, même si c'est un criminel. Donc, j'essaie de voir, là où j'habite, il y a des personnes qui viennent travailler, et souvent je les entends, des femmes de ménage qui se parlent entre elles. Et quelquefois, je me dis, c'est aussi fort que Joyce, c'est-à-dire cette variation dans les discours, passer d'un sujet à un autre. Voilà, j'ai envie de travailler là-dessus pour le prochain livre, c'est-à-dire comment, personnellement, je passe du réel au fictif, et comment dans le livre, je peux le faire aussi, à la fois en tant qu'écrivain et en tant que narrateur.
Justement, puisque vous parlez de Maurice, de Trou d'eau douce et puis même de votre maison, Barlaine Piamoutou, en écrivant Whitman, est-ce que ça a été pour vous un déplacement dans l'imaginaire et dans l'écriture, à la fois de changer de territoire, de changer de siècle, de changer de personnage, qui marque une sorte d'avant et d'après?
Alors le plus difficile, c'est de passer à l'hiver, parce que c'est en décembre. Alors je me suis dit, mais comment, quel paysage, quels arbres poussent en hiver? Enfin, des choses comme ça. J'avais un peu de mal parce que j'ai connu pas mal d'hivers, mais surtout en ville, donc je ne voyais pas la nature, etc., etc. Ça a été la grande difficulté, l'hiver. Les États-Unis, pas tellement, parce que ça se passe en 1862. En décembre 1862, donc il y avait des villes, bien entendu, mais ça je pouvais inventer relativement facilement. Mais la difficulté, c'était l'hiver, quand je devais décrire des arbres ou dans le bois, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui ne pousse pas, j'avais quelques difficultés. Mais parler de Whitman, non, absolument pas. Comme je vous l'ai dit, c'est un pote, c'est-à-dire je le comprends parfaitement, l'impression de savoir vraiment ce qui trotte dans sa tête, et puis je connais ses actes, ses actions, sa poésie, donc je pouvais faire le lien très facilement. Mais c'est le monde extérieur qui m'était compliqué.
Est-ce que vous voulez dire quelques vers de Whitman pour terminer? Parce que je vois que vous avez tourné des pages.
Oui, c'est tellement beau partout. Partout, partout, et je ne sais pas quoi. Mais par exemple, à l'époque, il y avait encore l'esclavage aux États-Unis. Voilà ce qu'il dit sur l'esclave marron. Ou quand il parle des peaux rouges, c'est magnifique aussi. L'esclave marron s'est arrêté chez moi, dehors. Je l'ai entendu faire craquer les petites branches dans le bûcher. Par la porte entrouverte de la cuisine, je l'ai aperçu tout faible, tout boiteux. Je suis allé au billot où il était assis. Je l'ai fait entrer. Je l'ai rassuré. lui a apporté une pleine bassine d'eau pour son corps en sueur, ses pieds meurtris. Lui ai donné une chambre communiquant avec la mienne, lui ai fait cadeau d'habits propres et simples. Je me souviens très bien de ses yeux roulant dans leurs orbites, de sa gaucherie. Je me souviens avoir mis des emplâtres sur les plaies de son cou, ses chevilles. Il est resté avec moi une semaine avant de se rétablir et de passer au nord. Je l'ai fait s'asseoir à ma table, mon fusil à chien posé dans un coin.
Merci beaucoup, Barlaine Piamoutou. Whitman est publié aux éditions de L'Olivier et cette traduction de Jacques Darras des Feuilles d'herbe aux éditions Gallimard.
Oh, brother Green, do come to me. For I am shot and bleeding, and I must die no more to see my wife and my dear children. The southern foe has laid me low on this cold ground to suffer. Dear brother, stay and put me away and write my wife a letter. Tell her I know she's
pretty. À la prise de son ce soir, c'était Louis Bardinet, à la réalisation Lise Combe. Un grand merci à Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor, Jeanne Léos et Valentin Rémy, qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Vous pouvez trouver toutes les informations, les références, des archives, des textes, des musiques sur la page de Par les temps qui courent, franceculture.fr, et vous abonnez aussi au podcast. Dans un instant, le journal de 22h sur France Culture. Très belle soirée, à lundi.
Go tell my wife she must not grieve. Go kiss my little children, for I am going to heaven to live to see my dear old mother. I have one brother in this wide world. He's fighting for the Union. But oh dear wife, I've lost my life to put down this rebellion. Go tell my wife she must not grieve. And kiss the little children, for they will call their pa in vain when he is up in heaven. Little babes, I love them well. Oh, could I once more see them? Then I might give a long farewell.